Il n'en restait pas grand-chose il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et de façon assez intéressante, aujourd'hui, il y a une réminiscence des thèmes de l'engagement, des thèmes révolutionnaires. Et on voit de nouveau, devant de l'actualité, des projets qui incitent à des changements radicaux. Je crois qu'en ça, c'est d'une certaine façon un certain héritage de la période guévariste, mais avec une énorme différence quand même, qui est que... Les changements qui sont prônés empruntent la voie pacifique et il ne s'agit plus d'aller créer des foyers de guérilla un peu partout en Amérique latine.
Cet idéal révolutionnaire, il a été en quelque sorte un peu récupéré par certaines guérillas en Amérique latine.
Ouais, il y a eu un prolongement sous forme de guérilla dans les années 60, 70. Aujourd'hui, il reste quelques foyers de guérilla, oui, bien sûr, en particulier évidemment en Colombie. Mais je dirais que le projet politique s'est progressivement estompé. Et on aurait bien du mal aujourd'hui, si on regarde les discours des FARC ou surtout leurs pratiques, à y déceler une quelconque continuité avec l'époque guévariste. Enfin, aujourd'hui, certaines guérillas sont devenues des forces pratiquement mafieuses et qui ne défendent plus grand-chose en termes de projets révolutionnaires politiques.
Après les périodes coloniales et dictatoriales, on peut considérer que la plupart des pays d'Amérique latine d'aujourd'hui se sont construits en opposition à l'impérialisme américain.
Il y a un impérialisme nord-américain qui s'est exprimé avec beaucoup de brutalité dans la deuxième moitié du 19e siècle et surtout dans le premier tiers, disons, du 20e siècle. Mais au fil des années, à mesure que le 20e siècle touchait à sa fin, cet impérialisme a beaucoup faibli. Et donc l'Amérique latine, qui a souvent réagi par rapport aux grands voisins du Nord, disons qu'aujourd'hui, est plus sur une ligne de coopération entre partenaires adultes que sur une ligne d'affrontement, à l'exception de quelques chefs d'État particulièrement bruyants comme Hugo Chavez au Venezuela. Mais c'est quand même une exception. Il n'est pas beaucoup suivi sur cette ligne. Et le grand changement de l'Amérique latine aujourd'hui en rapport à sa longue histoire, c'est de trouver ce continent entièrement démocratisé, à l'exception de Cuba. Et ça, c'est évidemment une très très bonne nouvelle pour la région.
Comment pourrait-on la définir, cette démocratie ? Elle est imparfaite, elle en est encore à ses balbutiements, certains régimes sont encore très fragiles.
Disons que oui, il y a une fragilité, il y a de l'instabilité, il y a des présidents de la République qui sont déchus régulièrement, des gouvernements renversés, etc. Donc il y a pas mal d'instabilité, notamment dans les pays andins. Mais la démocratie n'est pas en danger. Alors évidemment, on peut toujours dire qu'elle est imparfaite. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes. Mais il ne faut pas confondre, disons, ce qui relève du régime politique, qui fonctionne plutôt bien, de ce qui relève, disons, des problèmes sociaux, des problèmes économiques qui ne sont pas vraiment résolus en Amérique latine. Mais enfin, ce n'est pas tellement la responsabilité de la démocratie. Ça, c'est la responsabilité des gouvernements qui n'arrivent pas à trouver des solutions aux problèmes sociaux. Mais je trouve que la démocratie en Amérique latine se porte plutôt pas mal.
On peut considérer qu'en quelque sorte, on est un peu passé d'un impérialisme politique à une certaine forme d'impérialisme économique des Américains.
Les deux ont toujours été liés. Disons qu'aujourd'hui, les États-Unis ont moins besoin de la force militaire brutale pour faire valoir leurs intérêts. Je dirais que d'une certaine façon, en signant des accords de libre-échange, ils obtiennent les mêmes résultats et ils sont plus dans l'air du temps. Mais c'est aussi un moyen de pression pour démocratiser les pays, ces traités de libre-échange. Ce sont les Américains qui rechignent parfois à ratifier des traités qu'ils ont eux-mêmes signés. Et au moment de la ratification, on les voit contraindre, par exemple, la Colombie à mieux respecter les droits de l'homme. Les traités de libre-échange restent quand même un moyen de pression important pour les États-Unis dans la région, c'est sûr.